Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. 75 ans de relations diplomatiques, l'Indonésie et l'Australie renforcent l'éducation. La Chambre indonésienne de commerce et d'industrie a déclaré que le partenariat bilatéral entre l'Indonésie et Singapour se renforce. Erlangga a rencontré l'ancien président Kus pour renforcer les relations bilatérales. Le ministre de PUPR explore la coopération en matière d'infrastructure verte avec le Bangladesh. Le gouverneur de Bali a déclaré que la promotion du tourisme de BBTF contribue à la croissance de l'économie de Bali. Les dégâts agricoles dus à l'éruption du Mont Kanlaong aux Philippines ont atteint 28 milliards de rupiah. Voici le journal complet. Les gouvernements indonésien et australien renforcent leur coopération, notamment dans le secteur de l'éducation, afin de célébrer 75 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. L'un d'eux concerne le secteur de l'éducation qui a été marqué par l'inauguration du camp d'information Estek Aussi Banget qui a été installé jeudi 13 juin à la bibliothèque de l'Université d'État de Padang à l'ouest de Sumatra. Cité par Antara, Estek Aussi Banget est un camp spécial contenant des informations sur l'Australie où les étudiants peuvent explorer l'Australie à travers les livres disponibles. L'ambassadrice d'Australie en Indonésie, Penny William, a déclaré qu'avec la qualité de l'éducation dont dispose l'Australie, Penny invite l'Indonésie, en particulier l'Université d'État de Padang, à travailler ensemble pour faire progresser l'éducation dans la région de Minang sur la scène mondiale. Penny a ajouté, bien que l'Australie et l'Indonésie développent une coopération dans divers secteurs, tels que la transition énergétique respectueuse de l'environnement à l'économie, l'éducation reste le principal pilier des relations bilatérales entre les deux pays. Pendant ce temps, le chancelier de l'Université d'État de Padang, Chris Madinata, a déclaré que le campus collaborait avec de nombreuses parties, dont l'Australie, pour faire progresser l'enseignement supérieur. Le président du Conseil honoraire de la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie, UKADIN, Rosan Ruslani, a déclaré que le partenariat bilatéral Indonésie-Singapour se renforce grâce à la coopération dans divers domaines. Cité par rri.co.id, après avoir assisté à un déjeuner avec l'ambassadeur de Singapour en Indonésie, Kwok Fuk Seng à Jakarta jeudi 13 juin, Rosen a déclaré que les relations entre les deux pays étaient très bonnes dans presque tous les secteurs comme l'économie, le commerce, l'environnement, l'éducation et les énergies nouvelles et renouvelables. L'ancien ambassadeur d'Indonésie aux États-Unis a déclaré que Singapour était considéré comme le plus grand investisseur indonésien, en particulier dans le secteur du logement et des zones industrielles. Il a déclaré que la valeur des investissements de Singapour en 2023 a atteint 1,04 milliard de dollars américains, soit environ 16,2 billions de roupies. En fait, au premier trimestre 2024, la valeur atteint 4,2 milliards de dollars américains, soit environ 67 billions de roupies. Toutefois, selon Hossan, le plus important dans les relations entre les deux pays est l'établissement de la connectivité entre les personnes et la connectivité entre les entreprises ou B2B. Le ministre coordinateur des affaires économiques, Erlangga Hartarto, a rencontré l'ancien président russe Dmitry Medvedev à la résidence officielle de Medvedev dans la banlieue de Moscou en Russie mardi 11 juin. Cité par Antara dans sa déclaration de jeudi 13 juin, Erlangga a déclaré que la Russie était l'un des plus grands partenaires économiques de l'Indonésie et que l'Indonésie a salué cette réunion dans le cadre des efforts visant à améliorer les meilleures relations entre les deux pays à l'avenir. À cette occasion, il a également exprimé diverses opinions sur d'autres questions mondiales et stratégiques, notamment les questions géopolitiques mondiales et la dynamique positive dans les deux pays. Pendant ce temps, Medvedev a qualifié l'Indonésie de principal partenaire de la Russie et le plus grand dans la région Asie-Pacifique. Medvedev a également exprimé sa satisfaction lors de cette réunion. Il espère pouvoir discuter de diverses collaborations et enjeux mondiaux qui garantissent la sécurité mondiale. Medvedev est l'ancien président de la Russie pour la période 2008-2012 et l'ancien premier ministre russe pour la période 2012-2020. Le ministre des Travaux publics et du logement public PUPR de l'Indonésie, Basuki Hadi Mulyono, explore le potentiel d'une coopération en matière d'infrastructures vertes et intelligentes face au climat avec le Bangladesh. Dans sa déclaration à Jakarta, jeudi 13 juin, Basuki espère accroître la coopération entre l'Indonésie et le Bangladesh qui existe depuis 50 ans. Au cours de sa visite de travail pour assister à la troisième conférence de la décennie d'action de l'eau de Dushanbe en République du Tadjikistan, le ministre indonésien des Travaux publics et du logement public a tenu plusieurs réunions bilatérales. L'un d'eux est le ministre de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique du Bangladesh, Saber Hossein Chowdhury. Au cours de cette réunion, le ministre Basuki a également exprimé sa gratitude pour la participation du Bangladesh au 10e Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Bali du 18 au 25 mai 2024. Pendant ce temps, le ministre Chowdhury espère coopérer avec l'Indonésie, notamment dans la gestion du secteur forestier, l'arrêt précoce contre les inondations, les catastrophes naturelles et les matériaux respectueux de l'environnement. Le gouverneur par intérim de Bali, Sangmade Mahendrajaya, a estimé que l'événement de promotion du tourisme à travers Bali Beyond and Travel Fair, BBTF, avait contribué à la croissance de l'économie régionale après avoir lentement émergé de l'impact de la pandémie de COVID-19. Cité par Antara, Mahendra, en marge de l'ouverture du BBTF à Nusa Dua, la résidence de Badung, Bali, a déclaré jeudi 13 juin que la croissance économique de Bali au premier semestre 2024 était de 5,98%, dont l'une était due à cet ordre du jour. Selon lui, les transactions potentielles pour l'exposition annuelle estimée à 7,61 billions de roupies favoriseront la croissance économique de Bali et d'autres régions d'Indonésie. Cette année, pas moins de 370 acheteurs de 45 pays ont participé et des 182 vendeurs de forfaits touristiques, dont des acteurs économiques de 8 pays. En outre, il existe également des acteurs du secteur touristique de 11 provinces d'Indonésie. Comme tenu de son impact important sur l'économie régionale, Mahendra espère que BBTF continuera. Il espère également que toutes les parties, y compris les acteurs du tourisme, protégeront la nature et l'environnement de Bali. Les dégâts agricoles dus à l'éruption du mont Kanlaong sur l'île de Negro aux Philippines ont atteint plus de 104 millions de pesos, soit environ 28 milliards de rupiahs dans les régions 6 et 7. Selon un rapport du Conseil national philippin de réduction et de gestion des risques de catastrophe, NDRRMC, jeudi 13 juin. Cité par Antara, de l'agence de presse philippine PNA, le NDRRMC a indiqué dans ses dernières informations que pas moins de 1706 agriculteurs et pêcheurs ainsi que 842,3 hectares de champs dans les deux régions ont été touchés par l'éruption. Pendant ce temps, plus de 29,700 personnes vivant dans 25 barangays ou au niveau sous-district dans les régions 6 et 7 ont été touchées. Le gouvernement a fourni une aide aux familles touchées pour une valeur de plus de 11,3 millions de pesos, soit environ 3 milliards de rupiahs. Le mont Kanlaong est entré en éruption pendant 6 minutes le 3 juin, produit un torrent pouvant atteindre 5000 mètres. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Union européenne impose des droits de douane supplémentaires sur les importations de voitures électriques chinoises » avec Maudry. Chargé d'État, l'Union européenne a annoncé mercredi 12 juin qu'elle imposerait des droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 38% sur les importations des véhicules électriques fabriqués en Chine à partir du 4 juillet 2024. Après l'achèvement d'une enquête anti-subvention, ce droit supplémentaire s'ajoute au droit d'importation existant de 10%. Cette mesure entrera en vigueur temporairement à partir du 4 juillet. Puis définitivement à partir de novembre. à moins qu'une majorité des pays de l'Union européenne vote contre cette décision. Cette décision est le résultat d'une enquête préliminaire de l'Union européenne sur des allégations de subventions publiques accordées à l'industrie automobile chinoise qui nuisent à ses concurrents dans l'Union européenne. La Commission européenne estime que les véhicules électriques fabriqués en Chine sont 20% moins chers que les autres véhicules européens car ils reçoivent des subventions de l'État. Ces prix plus bas ont contribué à une augmentation rapide des exportations de véhicules électriques vers l'Union européenne ces dernières années. Selon les douanes de Rhodium citées par Republica 13 juin, les importations européennes de véhicules électriques en provenance de Chine ont bondi à 11,5 milliards de dollars américains en 2023 contre 1,6 milliard de dollars américains en 2020. La Commission européenne a déclaré avoir contacté les autorités chinoises pour explorer les moyens possibles de résoudre le problème de subvention. Mais si les négociations n'aboutissent pas à une solution efficace, l'augmentation des droits d'importation entrera en vigueur le 4 juillet. Le gouvernement chinois nie les accusations de l'Union européenne concernant le subventionnement des véhicules électriques. Citant le Global Times, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a nié cette affirmation et a déclaré que les voitures électriques de son pays pourraient dominer le marché de l'Union européenne, non pas grâce aux subventions. Selon lui, les véhicules électriques produits en Chine sont effectivement de meilleure qualité et technologique. D'un autre côté, l'Europe doit être prudente car la Chine est son principal partenaire commercial. Les constructeurs automobiles européens dépendent fortement de la Chine pour leurs ventes dans le pays le plus peuplé du monde, selon les données du secrétaire général de l'Association chinoise des voitures particulières CPCA, le pays est actuellement le plus grand marché automobile, détenant un tiers de la part de marché des ventes de voitures dans le monde. En mars 2024, les ventes de voitures en Chine représentaient 33% des ventes mensuelles totales de 8,15 millions de véhicules dans le monde, y compris les véhicules fabriqués en Europe. Si l'Union européenne n'applique pas de droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques en provenance de Chine, elle risque de provoquer une guerre commerciale avec Pékin. Jeudi, la Chine a déclaré, citée par Channel News Asia, 13 juin, qu'elle se réservait le droit d'en tenter une action en justice auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, concernant les tarifs douaniers. Pékin a exhorté l'Union européenne à reconsidérer les tarifs douaniers et à cesser d'aller plus loin dans ce qu'elle considère comme étant dans la mauvaise direction. La Chine a qualifié ces tarifs de comportement protectionniste. L'insistance de Pékin doit être prise en compte. Ne laissez pas les deux parties s'impliquer dans une guerre commerciale, car la Chine et l'Union européenne subiraient d'énormes pertes. Les gens des deux parties en ressentiront l'impact. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 14 juin 1959, les États-Unis ont fonctionné régulièrement pour la première fois en monorail. Le monorail est un type de train qui circule sur une seule poutre ou rail Jusqu'au milieu du XXe siècle, plusieurs essais de monorail ont été réalisés dans plusieurs pays. Le premier monorail à fonctionner régulièrement a été construit au parc d'attractions Disneyland en Californie aux États-Unis. Le monorail Disneyland a commencé à fonctionner le 14 juin 1959 et dessert toujours les passagers aujourd'hui. Le 14 juin 1985, la création de l'espace Schengen en Europe. L'espace Schengen est un espace qui comprend les pays de l'Union européenne qui ont officiellement aboli les contrôles d'immigration à leurs frontières. L'espace Schengen est issu de l'accord de Schengen signé le 14 juin 1985. Une ville du Luxembourg située à la frontière avec l'Allemagne. L'accord a été signé par 5 des 6 pays membres de la Communauté économique européenne, prédécesseur de l'Union européenne. Ces pays sont les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne de l'Ouest, le Luxembourg et la France. Aujourd'hui, 29 pays européens ont rejoint le système de l'espace Schengen. Le 14 juin, la journée mondiale du don de sang. Depuis 2005, le 14 juin est célébré comme la journée mondiale du don de sang et fait partie des journées célébrées par l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée vise à attirer des volontaires pour donner du sang et apprécier les donneurs de sang du monde entier qui donnent régulièrement leur sang une fois tous les 3 mois. Le soir du 14 juin comme journée de commémoration est basé sur l'anniversaire de Karl Landsteiner, lauréat du prix Nobel qui a découvert le système des groupes sanguins. Le thème de la journée mondiale de don de sang 2024 est 20 ans de célébration du don, merci aux donneurs de sang. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know. Baby, 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 baby.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Cette étape, voici donc Mon Indonésie, dont le titre est « L'Indonésie s'engage à achever la ratification du SPC-OCI, encourageant ainsi le commerce entre les membres de l'OCI ». Le ministre indonésien du commerce, Zulkifli Hasan, a déclaré que l'Indonésie s'engage à poursuivre et à achever la ratification du système préférence commerciale Organisation de la coopération islamique, SPC-OCI, afin d'encourager l'augmentation des échanges entre les membres de l'OCI. La déclaration a été faite lors de la troisième réunion ministérielle du Comité de négociation commerciale CNC-SPC-OCI à Istanbul, Turquie, mardi 11 juin 2024, heure locale. Il a déclaré que les efforts de l'Indonésie étaient basés sur la conviction que le SPC-OCI a un grand potentiel pour renforcer la coopération commerciale et économique entre les pays membres de l'OCI. Le ministre Zulkifli Hasan, dans sa déclaration citée par Antara, mercredi 12 juin 2024, a expliqué que la clé de la mise en œuvre réussie du SPC-OCI est l'inclusivité pour tous les pays membres de l'OCI. L'Indonésie avoue l'importance d'encourager une participation inclusive afin que davantage de membres de l'OCI rejoignent le SPC-OCI. Il a également été mentionné que le gouvernement indonésien doit coopérer pour faciliter la participation de tous les pays membres, en particulier des membres de l'OCI qui n'ont pas encore achevé la ratification. Actuellement, seuls 13 des 57 pays membres de l'OCI ont ratifié et commencé à mettre en œuvre le SPC-OCI depuis le 1er juillet 2022. Les 13 pays sont Bahreïn, l'Iran, la Jordanie, le Koweït, la Malaisie, le Maroc, Oman, le Pakistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie et les Émirats Arabes Unis. Le ministre Zulkifli Hasan a en outre fait remarquer que l'OCI doit garantir que les produits inclus dans le SPC-OCI et son utilité sont accessibles à tous les pays membres. En outre, le développement et les informations positives sur la mise en œuvre du SPC-OCI doivent être diffusées. Par conséquent, la participation des pays membres au SPC-OCI augmenterait. Zulkifli Hasan a également mis l'accent sur le renforcement des capacités pour encourager la participation des pays membres au SPC-OCI. Il a déclaré que l'Indonésie était prête à soutenir et à collaborer avec l'OCI et ses membres dans cet effort. C'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Jemputmu nanti.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Et cette fois je vais vous présenter le vêtement sadaria de la province de Jakarta avec Maudrey. Chers auditeurs, le gouvernement provincial de Jakarta a lancé 8 icônes de la culture Betawi. L'un d'eux est les vêtements sadaria. La chemise sadaria ou vêtement sadaria est un vêtement traditionnel Betawi typique pour hommes qui a la même forme que la chemise coco en général, mais c'est généralement de couleur unie. Cette chemise consciente est également appelée chemise à ciseaux chinoise et c'est souvent portée avec des trompas, ces sandales, des petits noirs ou rouges comme chapeau. Chers amis, initialement, ce vêtement typique Betawi a grandi et s'est développé dans la zone des internats islamiques, où à cette époque, l'internat islamique était utilisé comme centre d'éducation et d'enseignement de l'art martial du silat. Initialement, les vêtements sadaria étaient portés pour des activités religieuses comme aller à la mosquée ou faire l'aumône. À cette époque, les vêtements de sadaria se composaient de vêtements unis ou blancs, avec un pantalon comprimé qui avait une coupe ample et un motif de batik parang. En complément, ils utilisent également un petit noir ou rouge, un velours comme chapeau, ainsi qu'un chukin, non désignant un tissu porté autour du cou comme une écharpe. Chukin peut être un pareo ou un tissu à motif batik Betawi décoré d'images d'ondel-ondel à Monas. Chers auditeurs, au fil du temps, les vêtements conscients ont évolué dans leur conception et leur utilisation. Ces changements sont influencés par divers facteurs, notamment les interactions culturelles et les innovations dans les techniques de fabrication textile. Les motifs, les couleurs et les matériaux changent. Les matériaux utilisés sont plus légers. Les tailles sont plus variées et des accessoires modernes sont ajoutés. Ce vêtement Betawi typique est désormais couramment porté lors d'événements formels ou au quotidien. Pour changer de tarif, c'est tout, le magazine culturel.
Jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak kurasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta,
atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukmu? Bilakah
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur. Et cette fois, je vais vous présenter l'équipe de parachutisme de la police nationale a excellé aux championnats asiatiques et mondiaux. Avec moi Audrey. Chaque jour, l'équipe de parachutisme de la police de la République d'Indonésie a réalisé des exploits lors des championnats asiatiques et mondiaux de parachutisme organisés par la Fédération mondiale des sports aériens, FAI, à savoir les premiers championnats asiatiques de parachutisme en salle de la FAI et la 5e Coupe du monde de parachutisme en salle de la FAI. Chef du Bureau d'information publique, Division des relations publiques de la police nationale, Brigadier général de la police, Truno Yudo Wisnu Andiko, a déclaré que l'équipe féminine de la police nationale avait remporté la deuxième place du championnat asiatique et la cinquième place du championnat du monde. Le championnat aura lieu au Goulburn Indoor Skydiving à Macau du 16 au 20 avril 2024. Chers amis, grâce aux résultats obtenus lors de la 5e Coupe du monde de parachutisme en salle, L'équipe féminine a remporté la cinquième place dans la formation à quatre voies féminines de parachutisme et au premier championnat asiatique de parachutisme en salle. L'équipe féminine a remporté la deuxième place dans la formation à quatre parachutistes féminins. Truno Yudo a expliqué que le contingent indonésien était composé d'un groupe de commandement composé de deux personnes au nom du commissaire de police Cristianto Gutomo et de la KBP Abdul Fitri. Cet événement a réuni 10 pays pour le championnat asiatique et 30 pays pour le championnat du monde, atteignant 250 participants avec 95 équipes avec des numéros de championnat féminin à 4. Chers amis, l'équipe de parachutisme de la police nationale est composée pas seulement de policiers et d'athlètes qualifiés, mais également l'ambassadeur qui promeuvent l'esprit sportif, l'unité et la fierté nationale. Ils ont apporté la réputation de l'Indonésie sur la scène internationale et sont devenus des modèles pour la police et les jeunes athlètes de tout le pays. Leurs réalisations sont les réalisations de la nation et leur succès est une question de fierté partagée par tout le peuple indonésien. Mon cher auditeur, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal. Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Sempurna buat ku tinggalkanmu karena ku tak putus sempurna yang ku butuh kamu takkan ku lelah yakinkan hatimu.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson pop régionale de Java orientale intitulée Nemen. Chers auditeurs, la chanson Nemen, qui signifie aussi Nemen, écrite par Gil Gashahid et chantée par le groupe de musique javanais Gil Kustik, est sortie pour la première fois en janvier 2023. Nemen raconte les plaintes d'un homme abandonné par son amante. Avec la phrase languissante, les paroles de Nemen décrivent la déception d'une personne face à l'attitude de son partenaire qui préfère quelqu'un d'autre. Il ne s'attendait pas à ce que la lutte et l'attention qui lui accordait se terminent par une trahison. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Nemen de Kediri Java Oriental, chantée par Gil Kustik. Bonne écoute.
Cool. tresnoku nomor siji. Pena elemu blenjani janji koe tekong larani. Kon perjuang diri, sing penting kowe bahagia ending.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voixindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voix Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.